Bonjour à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Heuvels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Aujourd'hui, nous allons vous parler des disciples de Jésus et de Georges Brassens. Ça vous paraîtra peut-être un peu surprenant, mais vous allez voir, ça peut être intéressant. La lecture de l'Évangile est dans l'Évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 38 à 50. Jean lui dit « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom et nous avons cherché à l'en empêcher parce qu'il ne nous suivait pas. » Mais Jésus dit « Ne l'empêchez pas, car il n'y a personne qui fasse un miracle en mon nom et puisse aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, en vérité je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. Quiconque entraîne la chute d'un seul de ses petits qui croit, il vaut mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse meule et qu'on le jette à la mer. Si ta main entraîne ta chute, coupe-la. Il vaut mieux que tu entres manchot dans la vie que d'aller avec tes deux mains dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si ton pied entraîne ta chute, coupe-le. Il vaut mieux que tu entres estropié dans la vie que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Et si ton œil entraîne ta chute, arrache-le. Il vaut mieux que tu entres borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Car chacun sera salé au feu. C'est une bonne chose que le sel, mais si le sel perd son goût, avec quoi le lui rendrez-vous ? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres.
Aujourd'hui, les textes des prières auraient pu être chantés, mais ce sont des chansons qui ont été transformées en prières, des mots contemporains écrits et mis en musique par un auteur, compositeur, interprète décédé au début des années 80. On pourrait nous dire qui n'ont pas été écrits pour cela et que c'est les trahir que de les utiliser ainsi. Mais les mots de la Bible non plus n'ont pas été écrits pour être lus et commentés 2000 ans plus tard. Il n'y a d'écriture que s'il y a des lecteurs. Il n'y a de musique que s'il y a des auditeurs. Et dans tous les cas, c'est l'interprète qui donne sa couleur à l'œuvre originale.
Ce moment de méditation est un acte d'interprétation de bout en bout. Il tente de rendre compte d'une parole qui ne vit que d'être entendue, une parole qui s'adresse à chacun d'entre nous à travers les mots et la musique des autres, une parole qui nous dit « qui que tu sois, d'où que tu viennes, quelqu'un t'attend, il t'aime même si tu ne le sais pas ».
Les gens qui voient de travers pensent que les bancs verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants. Les amoureux qui bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se foutant pas mal du regard oblique des passants honnêtes, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des je t'aime pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Ils se tiennent par la main, parlent du lendemain, du papier bleu d'azur, que revêtiront les murs de leur chambre à coucher. Ils se voient déjà doucement, elle cousant, lui fumant dans un bien-être sûr, et choisissent les prénoms de leur premier bébé. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics.
Georges Brassens, que vous venons d'entendre, va nous accompagner pendant notre émission, préparée avec l'aide du pasteur Anne Faisandier de Lyon. La voix grave de Georges Brassens et sa façon si particulière de scander les syllabes nous restent en mémoire. Qui était l'homme qui se donne à entendre dans ses chansons? un homme au regard espiègle, plein d'humour, assez simple pour être cru sans être vulgaire. Un homme qui savait regarder sa vie humaine, la vie humaine aussi, telle qu'elle est, avec toutes ses facettes, gaies ou tristes. Prier, c'est aussi poser un regard sur les personnes et sur les situations. C'est se placer sous le regard d'un autre pour regarder notre vie autrement. Je vous invite à la prière.
Seigneur, nous voulons commencer par te dire merci. Merci pour ta présence à nos côtés en devenant comme l'un de nous par ton Fils Jésus-Christ. Merci aussi pour ceux et celles qui ont reçu ce don de pouvoir mettre en musique les émotions. Merci pour le regard qui fait des bancs publics des repères amoureux et de la laide Hélène, une fille aimable. Merci pour les Jeannes et les pauvres Martins qui jalonnent notre vie et nous parlent de notre propre humanité. Merci parce que toi-même, tu viens nous rencontrer dans cette humanité, dans nos besoins fondamentaux et nos aspirations profondes, dans nos espoirs déçus et nos actions modestes. Merci pour ceux qui ne croient pas en toi et qui nous interrogent, nous obligent à creuser notre foi. Merci de nous accueillir tels que nous sommes. Que ton esprit soit avec chacun d'entre nous, afin que les paroles prononcées atteignent les cœurs et permettent à chacun de donner du sens à son existence. Amen.
Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène, dans ses sabots crottés. Moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardé, son jupon de laine était tout mité. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine, et j'ai vu ma peine bien récompensée sous le jupon de la pauvre Hélène, sous son jupon mité. Moi j'ai trouvé des jambes de reine et je les ai gardées, et le cœur d'Hélène ne savait pas chanter. Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine.
Les chansons de Georges Brassens sont un paradoxe. D'un côté, elles portent sur les êtres un regard plein d'humour et de tendresse, qui disent entre les lignes que chaque personne est digne d'être aimée. Mais de l'autre, elles défendent une liberté de l'individu absolue, une méfiance caractérisée envers tout engagement, que celui-ci soit collectif, comme la chanson « Mourir pour des idées », ou individuel, comme dans la non-demande en mariage. Ce paradoxe est résumé dans ces paroles. Gloire à qui freine à mort de peur d'écrabouiller le hérisson perdu, le crapaud fourvoyé. Gloire au premier venu qui passe et qui se tait quand la canaille crie « haro » sur le baudet. Et gloire à ce curé sauvant son ennemi lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Gloire à qui, n'ayant pas d'idéal sacro-saint, se borne à ne pas trop embêter ses voisins.
Il y a là une sorte d'individualisme absolu allié à l'amour du prochain. Oui, il y a bien un paradoxe. Cet individualisme forcené découle d'une défense inconditionnelle de la liberté et me semble contraire à l'amour de l'autre. Je crois que pour aimer, il y a un moment où l'autre doit passer avant moi et où, forcément, ma liberté individuelle s'en trouve écorchée. Pour le dire autrement, je dirais que pour moi, en tant que chrétienne, aimer son prochain est en soi un engagement, le plus fort de tous les engagements. Et si ce n'est pas un engagement, alors ce ne sont que des mots vides de sens et il vaudrait mieux ne pas les prononcer. Qu'est-ce qu'un amour qui ne prend pas le risque du temps ? C'est un simple désir passager. Mais c'est peut-être pour cela que les chansons de Brassens nous ont touchés et nous touchent autant, parce que ce paradoxe habite chacun d'entre nous. Entre ce que nous disons et ce que nous faisons, il y a souvent un fossé. Il y a le même fossé entre ce que nous affirmons croire et ce que nous croyons vraiment.
Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Il n'y avait jamais de beau temps dans ce pauvre paysage. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni derrière. Il n'y avait jamais de printemps, ni derrière, ni devant. Mais toujours il était content, menant les gars du village, à travers la pluie noire des champs, tous derrière, à travers la pluie noire des champs, tous derrière et lui devant. Sa voiture allait poursuivant sa belle petite queue sauvage. C'est alors qu'il était content, tous derrière, c'est alors qu'il était content, tous derrière et lui devant. Mais un jour dans le mauvais temps.
Et on trouve dans les évangiles même ce flagrant délit d'incohérence qui en général prend en faute les disciples et donc à leur suite tous ceux et toutes celles qui voudraient se prétendre chrétiens. Dans le récit que nous avons lu tout à l'heure, l'évangile de Marc au chapitre 9, versets 38 à 50, les disciples de Jésus nous sont montrés assez peu à leur avantage. Certes, ce sont des hommes de conviction, mais voilà que notre épisode commence justement avec les conséquences de ces convictions. Ils s'érigent en gardiens de la bonne doctrine du Christ, comme d'autres le font en gardiens de l'ordre moral et défenseurs du vice et de la vertu. Un homme faisant des exorcismes au nom de Jésus, et il ne faisait pas partie de leur groupe, sous-entendu, le seul habilité à agir au nom du Christ, alors ils ont cherché à l'en empêcher. Encore une fois, l'évangéliste se sert des disciples pour mettre le doigt là où ça fait mal. Sur cette tendance naturelle que nous avons à tracer des limites autour de nous, il y a ceux qui pensent comme nous et les autres. Il y a ceux qui font partie du même clan, du même milieu social, de la même histoire, de la même église et les autres. Il y a ceux qui détiennent la vérité et les autres.
C'est la première chanson de Georges Brassens, celle qu'il a fait connaître, qui épingle ce travers, la mauvaise réputation. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant le chemin qui ne mène pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Le chanteur épingle ici notre tendance à tracer autour de nous les limites du club de ceux qui nous ressemblent et à exclure les autres. Et les églises chrétiennes ont malheureusement démontré sur ce point qu'elles étaient bien composées d'êtres humains semblables aux autres. Bien sûr, nous sommes conscients du danger que ce genre de fonctionnement nous fait courir. Nous savons bien les amputations, les lapidations, les abjurations, les guerres que cela implique, et nous luttons pour ne pas tomber dans ce piège. Mais quand même, il y a ce penchant naturel qui consiste à croire que tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Cette nécessité de compter nos troupes, de serrer les rangs, c'est ce qu'en font les disciples quand ils expliquent à propos de cet exorciste « Ils ne nous suivaient pas ». Jésus, comme à son habitude, déplace le problème et l'inverse en une seule phrase. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et il le déplace en répondant aux disciples, en gros, que le problème ce n'est pas de les suivre, mais de le suivre lui. Il oppose une conception exclusive de la communauté, tous ceux qui ne sont pas comme nous sont contre nous, à une conception inclusive, tous ceux qui n'ont pas clairement dit qu'ils étaient contre sont pour. Il ne trace pas une frontière nette entre un dedans et un dehors, entre ceux qui seraient dans son clan et ceux qui n'y seraient pas, mais il dessine un mouvement à sa suite. La communauté chrétienne n'est pas imaginée comme un cercle autour de Jésus, mais comme une cohorte qui viendrait à sa suite. Cohorte dont on distingue parfaitement les premiers membres, les disciples, et de moins en moins bien ceux qui suivent. Et Jésus dit qu'importe, l'important est le mouvement, c'est qu'ils suivent, même si on ne peut les différencier clairement. L'Évangile tout entier est le témoin de ce mouvement, avec sa suite de personnages dont pour les uns nous pouvons suivre tout l'itinéraire, alors que nous n'avons pour d'autres qu'une brève allusion.
Nous savons bien que cette conception généreuse recèle elle aussi un piège, le piège de la récupération et de la dilution. La récupération, parce qu'il n'est pas sûr, ou plutôt je suis sûre de l'inverse, que Georges Brassens aurait apprécié que l'on se serve de ses chansons pour prêcher l'Évangile, et loin de moi d'ailleurs l'intention de le transformer en chrétien convaincu. C'est aussi en récupérant les uns et les autres qu'on enlève toute aspérité et donc tout intérêt à leurs pensées, que l'on affadit leurs convictions et les nôtres, que l'on risque de faire de la foi un sel qui a perdu sa saveur et ne sert plus à rien.
Alors, que faire ? Jésus continue sa démonstration et explique ce que le suivre, agir en son nom, peut vouloir dire, quelles convictions cela implique. Et c'est là que les choses deviennent passionnantes. Dans son discours, Jésus pose une limite, mais une limite qui passe à l'intérieur de chaque individu. On passe de « si mon voisin n'agit pas selon mes règles, je le chasse » à « si ta main entraîne ta chute, coupe-la ». Oui, Jésus pose une limite, un jugement difficile à entendre. Cette limite est celle qui passe entre ce qui fait vivre et ce qui fait mourir. Il vaut mieux que tu entres manchot dans la vie, sous-entendu la vie éternelle, plutôt que d'aller avec tes deux mains dans le feu qui ne s'éteint pas. Et plus loin, Jésus parle aussi du royaume de Dieu comme synonyme de la vie éternelle. Ce qui est en jeu, ce n'est pas une éthique des choses qu'il faudrait faire ou ne pas faire, mais le sens profond que peut prendre l'existence de chacun.
Et ce sens profond en Jésus-Christ se joue justement dans le rapport que chacun entretient avec son voisin. Si quelqu'un veut être le premier, vient de dire Jésus à ses disciples, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Celui qui entrera dans la vraie vie, dit Jésus, est celui qui aura le souci de son prochain. Celui qui donnera un verre d'eau parce que l'autre a soif. Celui qui gardera ses questions et ses remarques pour lui, pour ne pas déstabiliser un de ses petits qui croit. Celui qui libérera l'autre de ses démons parce que cet autre souffre. Et même si cela n'est pas très académique, comme cet exorciste improvisé dont nous ne savons rien et qu'importe. C'est cela, agir au nom du Christ.
Je trouve un écho dans cette affirmation de la chanson de Brassens, L'Auvergnat, que nous allons écouter maintenant.
« Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. Toi qui m'as donné du feu quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés m'avaient fermé la porte au nez. Ce n'était rien qu'un feu de bois, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un feu de joie. Toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'hôtesse qui sans façon m'a donné quatre bouts de pain quand dans ma vie il faisait faim. Toi qui m'ouvris ta huche quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés s'amusaient à me voir jeûner. Ce n'était rien qu'un peu de pain, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand festin. Toi l'hôtesse, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel. Elle est à toi cette chanson, toi l'étranger qui sans façon d'un air malheureux m'a souri lorsque les gendarmes m'ont pris. Toi qui n'as pas applaudi quand les croquantes et les croquants, tous les gens bien intentionnés riaient de me voir amener. Ce n'était rien qu'un peu de miel, mais il m'avait chauffé le corps, et dans mon âme il brûle encore à la manière d'un grand soleil. Toi l'étranger, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera, qu'il te conduise à travers ciel au Père éternel.
À sa façon, Brassens dit que le ciel n'est pas affaire de belles paroles prononcées, mais d'actes posés, d'engagements assumés au nom de l'amour des autres. Et ne vous y trompez pas, dit Jésus, ce n'est pas un chemin facile. Il implique des renoncements et des amputations. Il faut laisser en chemin tout ce qui, en vous, fait obstacle à la vie. Et c'est là sans doute que le chemin du chanteur et de l'évangile se sépare. C'est là que la parole du Christ vient écorcher la sacro-sainte liberté individuelle. Ce chemin-là est un combat de chaque instant, mais d'abord un combat contre soi-même, bien plus qu'un combat contre les autres. « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec les autres », dit le Christ.
Exactement l'inverse de ce que l'on pense en affirmant qu'on peut avoir du goût sans empoisonner la terre entière, comme s'il valait mieux ne pas trop avoir de conviction et d'engagement. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, disait Georges Brassens.
La conséquence de cette affaire, c'est que l'on s'en tire généralement en confectionnant un potage inodore et insipide qui ne donne à personne l'envie de vivre. Au nom de la liberté individuelle, voilà que l'on défend une sorte de relativisme qui enlève toute saveur à l'existence. L'Évangile, lui, affirme « Ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec les autres ». Ce qui donnera du goût à votre vie, c'est de vous soucier des autres. Mais attention à ne pas traduire « trouvez la paix en vous-même en mettant du sel dans la vie des autres ». Non, ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec les autres. La liberté ne sert à rien si elle ne se met pas au service des autres. Votre amour sera votre engagement.
Ayez du sel en vous-même. Soyez hommes et femmes de combat et de conviction. Ne renoncez pas à avoir un idéal, même si cela doit vous coûter et cela vous coûtera. Ne vous taisez pas, ne renoncez pas, ne soyez pas fades. Soyez en paix avec les autres. L'amour du prochain n'est pas une matière à option. Il est le cœur même de l'Évangile. Ce n'est pas contre eux qu'il faut se battre, mais avec eux, pour qu'ils puissent eux aussi vivre vraiment. Ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec les autres. Aimer son prochain est en soi un engagement, le plus fort de tous les engagements. La liberté se trouve sur le chemin de l'autre, au nom du Christ.
Ayez du sel en vous-même et soyez en paix avec les autres, sur ceux et celles qui sont de bonne volonté et sur les autres. Le Seigneur fait briller sa lumière et resplendir sa clarté. Il nous bénit et nous garde. Amen. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie, par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée. Je vous salue Marie, par la vieille qui trébuchant sous trop de poids s'écrie mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tout ce dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui geint, et par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue Marie, par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue Marie,